Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de l'émission Libre Propos, l'émission de Radio Grand Ciel qui vous permet chaque semaine d'entendre la parole de notre évêque sur des sujets de société, des sujets locaux, nationaux, des sujets d'église et des sujets de société. Il y aura de tout, comme d'habitude. Bonjour Monseigneur.
Bonjour Christophe, avec joie.
On va commencer par parler évidemment du reconfinement, parce que, on avait retrouvé, il nous semblait avoir retrouvé la liberté à la rentrée. Et là, on nous reconfine, et voilà que, d'une certaine manière, la liberté de culte est un peu remise en cause, on va dire.
Oui, en même temps, qu'est-ce que la liberté, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la liberté? Les évêques ont dit qu'il n'y a pas de liberté sans fraternité. Donc, je pense que le reconfinement, qui est technique et sanitaire, n'empêche pas la fraternité. Au contraire, il est appelé à être un stimulus pour la fraternité, me semble-t-il. Et donc, notre liberté, si elle est liée à la fraternité, cette liberté peut exister dans l'acte d'aimer les autres et de s'intéresser à leur vie. Et ça, c'est important parce qu'on n'est pas... on n'est pas confiné dans notre être de chrétien, mais aussi d'hommes et de femmes vivant dans la relation aux autres. Ça, c'est vraiment pas le plan. Je pense que le plan, c'est au contraire de multiplier les idées pour aller rejoindre quelqu'un par téléphone, par les visios, par des appels, et même des visites, parce que nous, pasteurs, entre autres, nous sommes bien sûr tout à fait autorisés pour aller chez les fidèles pour un sacrement, une écoute, quelque chose d'important pour eux. Donc, on continue. La vie continue quand même, hein.
Oui, oui, oui. Mais pour autant, on a du mal à comprendre pourquoi on a le droit d'aller faire ses courses. Combien de personnes franchissent les portes des grandes surfaces chaque semaine à Chartres? Et combien de personnes vont à la messe le dimanche? On a du mal à comprendre pourquoi il y a deux points de mesure.
C'est sûr que de notre côté, en tant que chrétien, catholique, on a le sentiment d'abord d'avoir... d'être face à un peu une forme d'incohérence. C'est-à-dire que l'incohérence, c'est de voir que des lieux publics comme des trains peuvent être bondés ou des métros et qu'une église qui a de la place n'est pas accessible pour un rassemblement. Donc incohérence, injustice, parce qu'aussi, je pense qu'on a été quand même très attentif aux barrières, aux gestes barrières depuis le déconfinement durant tout l'été. Assurément, quelques lieux, parfois, il y a eu une exception. Mais enfin, c'était quand même un point d'attention. Et puis, on pense qu'il y a un côté un peu illégal, c'est-à-dire que la liberté de culte, c'est celle de se rassembler. Là-dessus, on a voulu, avec les évêques, et en l'occurrence la voix de notre président, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, faire un recours au Conseil d'État. D'autres gens l'ont fait aussi. Il y a une vingtaine de recours qui ont été étudiés quelques jours, qui ont donné lieu à un constat, d'abord que la liberté de culte, elle existe et qu'elle est incontournable, et qu'ensuite, pour des raisons simplement sanitaires, on n'était pas autorisé au rassemblement, sauf les funérailles avec 30 personnes, les mariages avec 6 personnes. On a levé un doute parce qu'on parlait des mariages civils, quid du mariage religieux? En fait, les mariages religieux sont aussi autorisés, bien sûr, mais 6 personnes, c'est quand même pas beaucoup, ça fait deux époux, deux fiancés, deux témoins, le célébrant et quelqu'un. C'est pas beaucoup. En tout cas, c'est déjà ça. Et puis, on a effectivement aussi pu savoir que dorénavant, quand on se rend à l'église, on peut mettre sur l'attestation donc besoin familial impérieux. Ça veut dire que je retrouve ma famille et l'église. Et là, dans cette case qu'on peut cocher, il n'est pas question d'un kilomètre. Donc, on peut faire plus qu'un kilomètre. Il n'est pas question d'une heure. On peut prendre le temps d'y aller, de prier, de revenir chez soi. Donc c'est au moins plus clair. Maintenant, le Conseil d'État a demandé que le 16 novembre, semble-t-il, on réétudie la situation en fonction de l'évolution sanitaire. Donc on espère bien là-dessus. Pour l'instant, les églises sont ouvertes. Moi, j'ai accueilli beaucoup de monde dimanche après-midi, venu se confesser, venu prier de manière séparée. Les gens ont pu communier ce qu'ils voulaient communier, ayant eu la messe le matin par les visios, les télévisions, ou la radio, Radio Grand Ciel, par exemple.
Oui, on peut écouter, je le rappelle, à nouveau, le matin, donc, la messe en direct sur Radio Grand Ciel.
À 8h20 en semaine et à 11h le dimanche.
Absolument. Le deuxième sujet, il est vraiment très attristant, il est écœurant. Ce sont les attentats de Nice. On a eu comme ça une vague d'attentats en France pendant plusieurs semaines, avec vraiment le summum de l'horreur atteint à Nice. On s'attaque aux chrétiens.
Oui, la mort de Samuel Paty a été vraiment une attaque qui mettait en cause l'enseignement. Donc cette liberté étonnante enfin, c'est nécessaire de pouvoir être instruit, avoir une connaissance, être éduqué. Ça, c'est incontournable et rien ne doit arrêter l'État dans cette mission d'éduquer nos enfants, nos jeunes, tout en ayant une éducation à la responsabilité, à la fraternité, au respect. Donc, tout peut se dire, mais tout ne convient pas. Donc, comment est-ce qu'on parle à quelqu'un, de quelqu'un aussi, dans ces lieux-là? Comment est-ce qu'on éduque un enfant à cette fraternité envers les autres? Même ceux qu'on ne connaît pas, même ceux qui sont différents de nous. Après ça, il y a eu effectivement l'église à Nice, Notre-Dame de l'Assomption, terrible mort de 3 personnes, 2 femmes, 1 homme, venus simplement prier parce qu'ils étaient là. Ils venaient prier comme catholiques, ils étaient tout à fait dans leurs droits, ils n'avaient rien demandé à personne, ils étaient dans l'amour du Seigneur, et cet homme fou qui est venu les assassiner, les décapiter, les poignarder.
Est-ce bien un fou ?
Oui, au sens que c'est un geste fou. Lui est peut-être pas fou au sens psychiatrique du terme, mais qui l'a conditionné, qui l'a entraîné à ce point à vouloir la mort d'autrui ? Pourquoi t'y attaquer dans une église ? Je crois que c'est quand même très important de se rendre compte qu'il a considéré, comme beaucoup considèrent, que la France est chrétienne, ce qu'elle n'est pas vraiment, et que donc en attaquant une église, c'était vraiment de dire aux chrétiens « voilà ce que vous méritez » ou « voilà ce que nous vous ferons subir au nom de Dieu ». Mais alors de quel Dieu parle-t-il ? Sûrement pas le Dieu d'amour que nous avons connu par Jésus-Christ, en tout cas une sorte d'idole sanguinaire. Je pense qu'il faut même prier pour cet homme, au sens que il est blessé gravement, il n'est pas mort, mais pour qu'il ait pour qu'il ouvre les yeux de son cœur, quoi, qu'il comprenne que jamais Dieu peut demander la mort de quelqu'un. C'est un blasphème grave que de penser que je peux tuer au nom de Dieu, parce que je prends la vie appartient à Dieu, personne ne peut l'ôter à quiconque. Et donc, prendre la vie de quelqu'un au nom de Dieu, c'est un blasphème. Je me fais Dieu à la place de Dieu.
C'est un blasphème pour les chrétiens. Ça n'est pas forcément pour les musulmans ou dans le Coran. Quelques versets dans le Coran.
Il y a des Corans qui sont très... Oui, il y a des versets assez durs du Coran, notamment ceux de Médine, la dernière partie de la vie de Mahomet, peuvent être très violents. Maintenant, on est au XXIe siècle. Tout le monde a accès aux mêmes droits de l'homme, aux mêmes Internet, aux mêmes... Enfin, on est sur un monde ouvert au dialogue, à la rencontre des autres, à la communion. Je pense que, enfin, je souhaite vraiment que s'arrête ce terrible conditionnement de quelques jeunes, quelques personnes qui vont ensuite porter la mort. C'est affreux.
Oui. Il faut continuer de dialoguer avec l'islam, mais de dialoguer, si j'ose dire, sérieusement, en étudiant les textes des uns des autres et...
Bien sûr qu'il faut parler avec les musulmans, mais il faut aussi parler entre nous, faut parler dans les familles, il faut qu'on s'aide mutuellement à découvrir par un vrai dialogue que chacun est digne de respect, de confiance, d'amour, quel qu'il soit.
J'en viens à votre message fraternel qui commence justement par rappeler ces terribles attentats de Nice, mais vous nous dites, eh bien, il ne faut pas être saisi par la peur, et là vous citez Matthieu 6, 27, qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie.
Oui, il ne faudrait pas que les gens qui ont peur soient se sentent jugés, parce que la peur, c'est un sentiment. On peut avoir peur naturellement. Si un chien m'agresse, j'aurais peur. Voilà, donc la peur, c'est un sentiment. Après, qu'est-ce que je fais de ma peur ? Effectivement, la parole de Dieu nous dit pourquoi vous inquiétez du lendemain ? Pourquoi vous inquiétez De ce que vous porterez comme vêtements, de ce que vous mangerez demain. Enfin, je pense aux familles qui ont des enfants, il faut bien qu'ils y pensent un peu quand même, mais pas s'inquiéter, au sens que, voilà, et donc vivre le quotidien avec, en vis-à-vis de la peur qui est possible, une autre source qui est celle de l'espérance que Dieu donne, parce qu'il est présent, parce qu'il est là, parce qu'il m'accueille, parce qu'il me donne une grâce même de choisir la joie, quoi, de dire je suis dans la joie parce que Seigneur tu es là, parce que j'ai des frères, des amis, et donc je ne laisserai pas ma vie être saisie par la peur à cause de ces actes d'attentat qui sont dramatiques.
Est-ce que les chrétiens morts à Nice sont des martyrs?
Alors un martyr pour un dans la tradition chrétienne, c'est quelqu'un qui offre sa vie pour sa foi. Donc quelqu'un qui, par exemple, serait mis à mort parce qu'il a refusé de renier sa foi, parce qu'il a tenu à sa foi. Donc ça, c'est un martyr. Alors, le mot martyr vient du grec qui veut dire un témoin. Donc, en ce sens, il est quand même témoin d'une foi, de la foi catholique qu'il vivait dans cette église et qui fait qu'il est mort là. Maintenant, cet homme qui les a tués n'a pas demandé qu'ils abjurent de leur foi. Donc, oui, c'est un témoin. Peut-être que le mot martyr ne correspond pas tout à fait à ce que nous voulons dire quand nous parlons, par exemple, du martyr de Saint-Laurent ou de certains saints qui ont été vraiment martyrs.
Oui. En tout cas, vous nous dites dans votre message fraternel, et là, vous reprenez encore les évangiles, « Qui aime sa vie, la perd, qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. » C'est-à-dire qu'il ne faut pas craindre de donner sa vie
Jésus,
malgré tout.
C'est ça. Jésus nous dit que notre vie, elle est précieuse, notre vie ici-bas. Mais si j'aime ma vie au point de ne pas la donner, par exemple, pour sauver quelqu'un, pour me mettre au service d'une cause, si je suis au fond égoïste, ma vie, je la perdrai un jour ou l'autre. Par contre, qui la perd pour les autres finit par la gagner en vie éternelle.
Ouais. Alors, vous nous appelez aussi à la prière et au jeûne.
Oui, parce que je pense qu'il faut qu'on résiste. J'aime bien ce mot de résistant, je crois que c'est un beau mot. Mais notre résistance, elle est pacifique, mais c'est un combat quand même de résister. Et nos armes, c'est la prière et le jeûne. Jésus le dira à ses propres apôtres quand ils auront un homme possédé qui n'arrive pas vraiment à libérer. Il leur dira, c'est par la prière et le jeûne. Donc oui, on a ces armes qui sont magnifiques. Il faut qu'on les utilise et qu'on y soit fidèle.
Oui. Merci beaucoup, Monseigneur. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Libre Propos. Vous pouvez réécouter, bien évidemment, la présente émission sur le site www.radiograndciel.fr. Excellente fin de semaine à toutes et à tous.
Je suis trop petit pour faire de grandes choses, Jésus. Ma folie à moi, c'est d'espérer, espérer, espérer au-delà même de l'espérance. Espérer sans rien voir, mais espérer toujours. Je suis trop petit pour faire de grandes choses, Jésus. Ma folie à moi, c'est d'espérer, espérer, espérer dans la foi, obéir en confiance, partir sans bien savoir, mais espérer toujours. Je suis trop petit pour faire de grandes choses, Jésus. Ma folie à moi, c'est d'espérer, espérer, espérer que lui-même il se fait providence.